Nous sommes le jeudi 5 janvier 2023 et oui, déjà 5 jours de consommer dans la nouvelle année. Et comme nous vous l'avons signifié depuis mardi, cette année, le club de la presse, hein, nous nous saluons non plus en shalom et assalam alaikum, mais nous allons décliner les salutations dans les langues togolaises au jour le jour. Ainsi aujourd'hui, bonjour, Mifonyedea, Meven Kozo, Noru, ça c'est la langue Akebu, Kotokoli et Guin, plus naturellement le bonjour, le français. En cette journée où nous sommes heureux de retrouver en vie et plein d'énergie, trois de nos mousquetaires du jeudi, dans l'ordre, hein, commençons par le chef traditionnel du club La Presse, notre Tchotcho, Michel Sarakabalo Tchotcho, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour à Magloire et bonjour à Ilom, bonjour à notre ami technicien, oui. Bonjour à toute l'équipe de Canal FM en commençant par le directeur général et bonjour à toute la famille Canal FM.
Merci. Les assesseurs de notre Tchotcho aujourd'hui, c'est Elom Kossi Atichobe. Bonjour.
Bonjour Sas, bonjour aux confrères en studio, bonjour à toute l'équipe de Canal FM également. Un coucou particulier au directeur général Modeste Messa Vousouakoué. Et je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les Togolais. Et pour présenter mes meilleurs voeux également à tous mes concitoyens et à tous les compatriotes.
Merci. Et comme lui n'est pas encore marié, il n'a pas le rang d'être assesseur de Tchotcho. Nous l'érigeons en page de notre Tchotcho. Magloa Teko Kenvi, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour aux confrères ici présents. Bonjour aux amis techniciens. Comme l'homme, je vais également dire bonjour à l'administration de Radio Canal FM, tout en lui souhaitant mes voeux les meilleurs également à tous les auditeurs qui nous suivent au quotidien religieusement, vivement que cette année soit encore une des plus belles aventures du club de la presse.
Et Modeste, mais sans vous soit que le directeur général de Canal FM qui vous suit dans son bureau, hein, il me charge de vous souhaiter bonne heureuse année à vous-même. Bonne santé, paix dans vos cœurs, dans vos foyers, dans vos amis, mais également une bonne vie à vos rédactions. Ouara les vainqueurs, la Nouvelle Tribune, Flambeau des démocrates et tous les médias, hein, dont les directeurs et rédacteurs en chef défilent au club de la presse. Il faut que chaque média individuellement soit fort pour que le club de la presse soit fort et que l'expression de la liberté de presse également soit vraiment forte, riche et dynamique. L'émission de ce jour est réalisée par Thomas Datevi, qui va être incessamment rejoint par Jérôme Kodjo Akucha. La pensée du jour, nous revisitons aujourd'hui Socrate, ce que Socrate a dit, à savoir que les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens. C'est cette sagesse de Socrate qui va nous conduire durant cette émission au cours de laquelle nous allons aborder ce qui prend les allures de la première crise ouverte de la nouvelle année 2023, à savoir ce qui s'apparente à un bras de fer entre le ministère des Sports et des Loisirs d'un côté, le Comité National Olympique du Togo de l'autre. Vous en saurez abondamment bientôt. Et puis nous allons continuer avec les informations tous azimuts telles que les journaux nous en parlent. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Michel et l'homme et Magloire et les techniciens, tous les auditeurs, au-delà de notre foi, de notre confession religieuse individuellement, nous sommes en communion avec ce qui se passe en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome actuellement. Il s'agit des obsèques à la fois solennelles et sobres de Joseph Aloysius Ratzinger, ou plutôt si vous préférez le pape émérite Benoît XVI, qui a quitté le monde des vivants le 30 décembre 2022. Dieu ne lui a pas permis d'entrer dans la nouvelle année. Et c'est aujourd'hui que son successeur, le pape François, et une bonne partie du sommité du monde, ma gloire, nous conduisons en physique ou en communion d'esprit Joseph Aloysius Ratzinger, où le pape émérite Benoît XVI à son ultime demeure aujourd'hui.
Effectivement, je crois que la semaine dernière, on en parlait déjà ici au Club de la Presse, quand lors des assemblées générales tenues, n'est-ce pas, la dernière assemblée générale tenue donc au Vatican, le pape François annonçait donc à l'endroit du monde catholique de prier pour le pape Benoît XVI parce qu'il n'allait pas bien. Ses mots étaient que le pape était très malade. Alors, on se demandait si c'était des signes annonciateurs, justement, d'une nouvelle qui s'apparentait imminente. Et le lendemain, juste après, le Vatican nous annonçait justement le rappel à Dieu, n'est-ce pas, du 265e pape de l'Église romaine catholique. Ben, on dira donc que oui, au-delà de l'Église catholique, c'est tout le monde entier qui perd un vaillant acteur. Vous vous rendrez compte que dans l'histoire catholique, ce pape-là, il s'est particulièrement caractérisé par sa foi chrétienne. Et il était l'un des rares papes, d'ailleurs, à s'attaquer à un des mots qui mine, ronge l'Église catholique. Naturellement, la question liée à l'homosexualité au sein de l'Église, il en a fait l'une de ses batailles. Il a même travaillé à ce que l'Église puisse toiletter ses thèses pour pouvoir être beaucoup plus rigide ou rigoureuse vis-à-vis de tous ces prêtres, de tous ces acteurs de l'Église qui s'embourbaient un peu dans cette pratique-là. Et malheureusement, la santé humaine, ou du moins l'instinct de l'humain, est rattrapé quand on est, le philosophe l'a dit, lorsqu'on est, on est assez déjà vieux pour mourir. Mm-hmm. Aujourd'hui, il repart, que la terre lui soit légère, que le Saint-Père lui accorde un repos éternel.
Ainsi, l'année 2022 nous a fait perdre deux figures emblématiques, Edson Arantes do Nascimento, ou si vous préférez, le roi Pelé pour le football, et Joseph Aloysius Ratzinger, le pape Benoît émérite, Benoît XVI, le pape émérite. Ils sont morts dans les ultimes instants de l'année 2022. Ils sont enterrés les tout premiers jours de l'année 2023, et l'homme, ainsi va la vie.
Oui, malheureusement, je pense que la dernière fois qu'on était sur ce plateau, c'était jeudi, voilà, à parler de ces deux personnalités, et à souhaiter justement qu'ils puissent aller mieux. Malheureusement, le sort en a décidé autrement, ils sont passés de vie à trépas. On a une pensée particulière aujourd'hui pour Pelé, le roi Pelé, pour tout ce qu'il a fait dans l'univers du football. C'est une légende, et une légende, comme on le dit souvent, ne meurt jamais. Et à l'endroit du pape Benoît XVI, mort à 95 ans, je crois quand même que le Vatican a fait tôt de préparer les esprits à cette nouvelle. Parce que déjà, le fait que le pape François Ier ait rendu visite au pape Benoît XVI pour prier avec lui et demander que l'ensemble des fidèles puissent prier avec lui pour son rétablissement, je crois quand même que le Vatican, de façon indirecte ou désintéressée, a voulu préparer les esprits à toute nouvelle. Et malheureusement aussi, il a quitté le monde des vivants, que la terre lui soit légère.
Merci pour couronner tout notre tchotcho, Michel. Un mot à l'endroit de Pelé, de Benoît XVI, et surtout également pour nous exhorter à l'optimisme, parce que la vie continue avec nous et les enfants qui naissent au jour le jour.
Oui, tu sais ça, ce qu'on naît, c'est qu'on va mourir un jour. Le souhait, c'est que quand on est, il faut quand même que Dieu nous donne le temps de servir l'humanité, de poser des actes avant de quitter un jour. Et les deux illustres disparus dont vous parlez, je pense que ils ont fait, ils ont pu faire de grandes choses. Quand je prends le roi Pelé, je pense qu'il fait, il fait toujours la fierté des fans du football et surtout des Noirs, parce que à un moment donné, il a pu montrer à la face du monde que les Noirs étaient capables de jouer au football d'un niveau aussi élevé. Et quand vous prenez le Monseigneur comment vous l'appelez, Benoît XVI, qui vient de dans les encore les obsèques se déroule actuellement, je pense que c'est monsieur qui a mené une bataille noble, et aujourd'hui, comme Magloire le disait, nous ne faisons que prier le Seigneur pour qu'il le laisse à sa droite, parce que nous irons tous là-bas. Mais encore une fois, que Dieu nous donne le temps nécessaire de d'aider les autres, de servir l'humanité avant de quitter un jour.
Merci. Pendant que nous saluons la mémoire des figures emblématiques Pelé et Benoît XVI, nous saluons deux jeunes garçons qui sont vivants et qui sont également, qui font leur petit bonheur de chemin. C'est les frères Napo. Ils sont là, ils n'ont pas de travail, mais ils se sont constitués pour faire la toilette de vos véhicules. Les deux frères là, s'ils passent, Michel, s'ils passent voir, visiter ton véhicule, tu ne vas plus retrouver. Ils font la toilette des véhicules de façon vraiment splendide.
Oui, les frères Napo, s'ils sont honnêtes, parce que s'ils sont honnêtes,
c'est ce que je leur dis,
dans ce qu'ils font, mais pourquoi pas ne pas les applaudir.
Et en bon bassa, nous les saluons à Poya, et ainsi nous allons vers
mais le ça, sujet. Avant oui, qu'on Michel. Ne continue, je pense que Benoît XVI, c'est lui qui nous a quittés, non?
Oui.
Voilà. Son successeur est en train de poser un acte que l'humanité n'a jamais connu. Mm-hmm. Qu'un pape dirige la messe d'un autre pape, oui. C'est un fait inédit, oui, qu'il faut relever.
Justement, ça, c'est oui, une seconde plutôt. Michel venait de relever un point essentiel. C'est la première fois qu'un pape en activité célèbre les obsèques
de son prédécesseur.
Voilà. Et justement, ce n'est pas une fête en soi. Ça relève un peu cette grandeur d'esprit, n'est-ce pas, de ce prédécesseur-là qui venait de mourir. Mm-hmm. Parce que à un moment donné, il estimait qu'il n'avait plus les capacités d'assurer, n'est-ce pas, la mission de pape. Et donc, étant qu'humain, il préfère céder la place à un autre pour que l'Église continue par exister en tant qu'institution. Mais c'est ça qui est rare un peu dans notre monde mondain, si on peut le dire ainsi.
Oui, oui.
C'est-à-dire que même à un âge assez avancé, les gens s'accrochent au pouvoir, même contre leur propre gré, on sait vraiment, c'est à un moment donné, on a l'impression qu'ils se torturent eux-mêmes. Je ne veux pas donner des noms, mais regardez un peu partout sur le continent. Mmh. Vous voyez des chefs d'État qui, lors des grands sommets, se perdent. Ils se demandent où est-ce que je suis, pourquoi les gens sont là. Mais à un moment donné, on se dit, mais pourquoi on se torture tant sur Terre? Le pouvoir, il est éphémère. Nous sommes de simples passagers sur Terre. Mais essayons tant soit peu, même si c'est un an, deux ans, trois ans, cinq ans de pouvoir, faisons au mieux d'impacter notre passage que de vouloir s'éterniser au pouvoir, mais en laissant finalement des traces ou des casseroles.
Merci.
Je crois que c'est le bel exemple que le cas de Nancy nous a donné.
Oui,
parce que
oui, Michel.
Non, le sujet est très intéressant. C'est, il faut pas de quoi on va parler encore. C'est des choses
c'est que les gens.
Non. Le sujet est intéressant. Ce que Magloire vient de relever, je pense que ceux qui nous suivent comprennent déjà. Comme il a dit, c'est pas la peine de citer le nom des gens. Vous comprenez? Ce que je tiens à relever, c'est que ces gens-là, quand ils sont là, il y a des mayou autour d'eux qui nous disent que si la personne n'est pas là, le ciel tombera sur vos têtes.
Oui.
Regardez Mugabe, il est parti. Est-ce que le Zimbabwe est là ou pas? Je ne veux pas citer encore d'autres noms.
Oui.
Ouais, c'est que
Fidel Castro est parti.
Cuba est là. Donc, il faut que les gens s'arment de courage pour dire que non. Un être humain, c'est un être humain. Donc, à un moment donné, tu peux partir. L'humanité restera. Voilà, c'est
merci,
comme ça.
Comme Magloire le dit, avoir certaines images de certaines sommités.
Ça ne fait pas honneur.
On a plutôt l'impression qu'ils sont l'otage de leur propre pouvoir.
C'est eux que j'appelle les mayou. Ça dit, ces gens-là, qui pensent que...
C'est le premier mot que j'apprends.
Oui, c'est ces gens-là qui sont dans l'entourage, dans les premiers cercles. Et qui vous disent que si lui là il n'est pas là, vous êtes foutu. Non. Il faut avoir sa main de coup pour leur dire que non. Les gens vont passer, d'autres vont arriver.
Merci.
C'est comme ça.
Et l'homme, ça doit être beau. Nous sommes encore très jeunes, mais quand nous voyons l'âge respectable de ces personnalités, ça doit être beau pour eux de se reposer, de voir leurs petits enfants, voir leurs arrière-petits-enfants grandir, de jouer avec eux et profiter de ce qu'ils ont pu réaliser sur Terre. Au lieu de ce bonheur sur Terre, ils préfèrent encore se torturer au pouvoir.
Bon, je crois que les juristes le disent souvent. Les hommes passent, mais l'État demeure. Vous pouvez être aujourd'hui aux affaires, demain ne pas être là. Vous avez vu Didier Rollins au Ghana. Vous avez vu tout ce qu'il a pu réaliser. À un moment donné, vous allez croire qu'il ne va jamais quitter le pouvoir. Mais il a quitté le pouvoir. Mais le Ghana
continue à faire son petit bonheur du chemin.
Il y a d'autres personnalités. Par exemple, Barack Obama aux États-Unis. Vous avez vu d'autres personnalités. Vous descendez même au niveau des sociétés, etc. Mais les gens passent. Mais les institutions demeurent, quoi qu'on dise. Ce qu'il faut construire, ce qu'il faut laisser, c'est des institutions fortes. C'est une bonne gestion, une bonne gouvernance, pour que d'autres personnes puissent également se fondre dans la masse. Donc, je crois quand même que si aujourd'hui, un autre pape célèbre la messe d'obsèques d'un pape défunt, ou d'un défunt pape, c'est que justement, celui qui est décédé a eu de la hauteur en démissionnant de son poste pour des raisons, genre, c'est-à-dire de maladie, de santé. Donc, je crois quand même qu'aujourd'hui, il faut saluer ce fait-là. Et c'est un exemple fort qu'on donne ou qu'on envoie, un message très fort qu'on envoie à d'autres personnalités.
Et rappelez-vous, Mamadou Tandja, qui au bout de ses mandats disait qu'il veut...
modifier la constitution.
Non, il dit un rallonge de... trois ans pour terminer les projets. Mais les projets, c'est pas à lui. C'est à l'État nigérien. C'est pas à lui. L'État est là, les projets, c'est... à l'État nigérien. Il doit partir. Et heureusement que certains...
Il est parti
d'une manière... Voilà, le Niger est là.
Merci. Et pour clôturer, vous rappelez dans son message de vœux à la nation, Faure Gnassingbé rappelait l'État de droit que nous appelons de tous nos vœux, cet État de droit que Faure Gnassingbé souhaite voir assis sur des institutions solides, pérennes, qui nous survivent. Ainsi, nous passerons, mais le Togo demeurera et continuera à relever ses défis. Les défis qui se conjuguent des fois en petites crises, comme ce que nous vivons depuis quelques heures. En ce début d'année, on a l'impression d'un bras de fer qui oppose le ministère des Sports et des Loisirs d'un côté, le Comité National Olympique du Togo de l'autre. Les deux entités ont le mérite d'inaugurer la première crise ouverte ici au Togo, dans la nouvelle année. Hier, dans sa parution, le confrère, le correcteur écrivait à la page 7, sanctions illégales et arbitraires de l'Amega, Tagba et consorts, la ministre Bessy Kama met fin aux dérives d'Akpaki. Pour rappel, le sieur Blida Mauna a écopé d'une sanction le 23 août 2021. Ce même 23 août 21, c'était le tour de Dr Jobo Ben Tchédré. Le 12 mai 2022, c'est l'Amega Katema Massaberma. Et le 31 mai 2022, c'est le tour de Cassifon Mensah qui ont écopé des sanctions de la part du CNOT. Et puis la ministre qui dit avoir relevé la non-effectivité des organes disciplinaires du CNOT pour statuer au plus tôt sur les cas des sanctions provisoires et a pris la décision le 30 décembre de lever ces sanctions. Et un peu comme la réponse du berger à la bergère, le 3 janvier 2022, c'est le CNOT qui a adressé un courrier à la ministre, courrier dans lequel le président du CNOT dit relever que la procédure des sanctions prises contre les susnommés demeure jusqu'au terme que la procédure ira jusqu'à son terme dans le strict respect des textes du CNOT. Et ceux qui sont sur les réseaux, sur les plateformes, suivent toute la polémique qui s'alimente autour de cette affaire. Et l'homme, présume que tu connais assez bien ce dossier-là, voudrais-tu nous faire l'historique des sanctions que le CROT a prises contre les susnommés et comment la ministre des Sports a eu à lever les dites sanctions. La réponse du président du CNOT à la ministre et surtout, notre débat va consister à voir si la ministre est fondée à lever une sanction prise par le CNOT contre ses membres et l'homme.
Bon, je dirais d'abord que c'est regrettable ce qui se passe dans le mouvement sportif parce que justement, moi je ne dirais pas qu'il y a une crise parce qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation des textes, d'accord ? Parce que le problème, c'est sur la base des textes et des faits. Voilà, au lendemain des Jeux de Tokyo 2020, des Jeux Olympiques de Tokyo, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé justement que une série de sanctions a été prononcée, a été prise par le Comité National Olympique du Togo. Je dirais plutôt que s'il s'agit de suspension provisoire à titre conservatoire. Je précise, parce que c'est important de préciser. Et il s'agit des sanctions qui concernaient Monsieur Dr Diobo, qui était à l'époque président de la Fédération Togolaise des Sports Paralympiques, sur des faits où il y a des allégations de détournement de deniers publics de l'athlète Kabisa Kumealo aux Jeux Paralympiques de Tokyo. La deuxième sanction concernait Monsieur Bida Mauna, premier conseiller du Comité National Olympique du Togo, sur des accusations d'un athlète, en l'occurrence Fabrice Dabla, qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo, et qui justement s'est plaint du fait que il a été victime d'une tentative d'agression de la part du premier conseiller du CNO Togo, et le CIO a saisi le CNO Togo, notamment le comité d'organisation de ces Jeux, pour se plaindre du fait que chaque Comité national olympique est responsable de la protection de ses athlètes et que ce qui s'était passé était de nature à perturber le bon déroulement ou l'esprit olympique. Donc, la troisième sanction portait justement sur la Fédération togolaise d'escrime, dont le président, le secrétaire général et le directeur technique national a été suspendu provisoirement à titre conservatoire par rapport à une affaire de trafic de visa Schengen et qui a conduit justement à l'audition du président de la Fédération togolaise d'escrime au CNO Togo, par le comité exécutif du CNO Togo, et qui s'est conclu par un courrier ou une saisine du ministère des Sports au CNO Togo pour demander justement que le président de la Fédération togolaise d'escrime soit suspendu. D'accord ? Donc, je fais la genèse pour que les gens comprennent à peu près les motifs qui ont conduit à ces différentes sanctions. Maintenant, aujourd'hui, on assiste à une levée de sanctions, c'est-à-dire le 30 décembre, par hasard, on demande, la ministre des Sports a écrit au Comité national olympique du Togo pour demander, ou bien pas pour demander, pour lever les sanctions qui pèsent sur les personnalités ou les personnes dont je viens de citer les noms. Et elle a fondé son argumentaire sur des motifs, notamment la loi du sport, et puis vers la fin, elle a parlé de la nécessité de préserver l'équité au sein du mouvement olympique et sportif national. Et donc, c'est justement dans le cadre de la préservation de l'équité du sport qu'il faut justement faire valoir les textes, selon moi. Parce que justement, quand vous prenez le parallélisme même des formes, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le CNO prononce une sanction contre des acteurs sportifs et que c'est le ministère qui vient lever la sanction. D'accord ? En sachant pertinemment que c'est le ministère qui a demandé, qui a écrit au CNO Togo pour demander de sanctionner tel monsieur. Vous comprenez ? Donc, là déjà, il se pose un problème de parallélisme des formes.
Mais justement, à ce niveau-là, la ministre dit relever que le CNO Togo ne compte pas encore en son sein des organes disciplinaires et actifs pour juger de la suite de ces sanctions provisoires, s'il faut les maintenir contre les susnommés ou bien s'il faut les lever.
Effectivement.
C'est vis-à-vis de la non-effectivité de ces organes que la ministre se dit obligée de lever les sanctions.
Effectivement, il me semble, parce qu'à l'alinéa, à l'article 2 de chaque décision de suspension, je pense que le Comité national olympique a précisé que ces affaires seront déférées devant la commission juridique de discipline et éthique du CNO Togo. D'accord ? Maintenant, le 21 décembre 2022, cette commission a été constituée, le président a été nommé avec les membres. Et donc, l'affaire devrait être déférée ou transmise. Le dossier devrait être transmis à cette commission. Et entre-temps, dans l'affaire des escrimeurs qui sont dans la nature, Il y a une plainte devant les tribunaux contre le CNO Togo des mises en cause, justement, par rapport à ce
plainte
dossier.
Plainte déposée par
Monsieur Lamega, qui est le président de la Fédération d'escrime, le secrétaire général, et puis le directeur technique national, qui ont déposé plainte devant les tribunaux contre le CNO Togo, d'accord, pour contester leurs sanctions, d'accord. Et c'est dans cette affaire, justement, pendant qu'il y a une affaire en instruction, d'accord, pendant que la justice, qui devrait faire son travail dans le cours normal des choses, que cette malheureuse note portant levée de sanctions arrive. Parce que justement, il s'agit d'une obstruction de procédure judiciaire. Vous comprenez que là, je m'en tiens juste au parallélisme des formes, quand on veut raisonner sur le plan juridique. Et encore que, dans ce fait-là, parce que quand vous savez qu'une affaire est en instruction, vous comprenez que vous ne pouvez pas faire obstruction. Parce que la personne demande à être réhabilitée, que la justice lave son honneur. Maintenant, il y a une note qui dit, une note émanant d'un officiel togolais, qui lève la sanction contre l'instruction judiciaire en cours au niveau de la justice. Donc, il se pose un second problème. Maintenant, troisième point. Vous savez, au niveau même des tests du CNO, l'article 15, justement, dit que les décisions portant sanction prises par le CNO ne peuvent être... Enfin, c'est l'Assemblée générale réunie en session ordinaire qui peut justement se prononcer sur des décisions définitives en ce qui concerne les sanctions prises par le CNO Togo. Vous comprenez? Dans tous les pays au monde, les comités nationaux olympiques disposent d'un statut particulier. C'est pas comme les fédérations nationales sportives, non. Dans tous les pays, les comités nationaux olympiques disposent d'un statut particulier. Je ne l'invente pas. Ça se passe comme ça partout. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est eux qui veillent à l'esprit et à la charte olympique. Et donc, dans ce couloir, justement, moi, je regrette tout ce qui se passe actuellement, parce que on n'a pas besoin.
Et l'homme, je te prie de faire fi de nos sentiments et de nous en tenir uniquement au fait.
Non, quand on dit que je regrette, je ne dis pas encore mon sentiment, je dis juste que, voilà, on aurait aimé que les choses se passent, voilà, autrement.
Oui.
Et maintenant, sur le plan de l'interprétation, j'ai fait un certain nombre d'interprétations tout à l'heure. Si vous prenez l'article 15, j'ai parlé de l'habilitation de l'Assemblée générale ordinaire à se prononcer sur les décisions du CNO Togo. Maintenant, si vous prenez les décisions du CNO Togo, qui peut attaquer les décisions du CNO Togo? D'accord? C'est, par exemple, si la CNO prend une sanction aujourd'hui, qui peut se prononcer sur cette sanction? Parce que c'est aussi important de le dire. Mm-hmm. Est-ce que c'est le ministère des Sports? Non. Si le CNO prend une sanction, la loi dit qu'il faut que l'Assemblée générale réunie en session ordinaire se prononce, soit le tribunal arbitral du sport dont les décisions sont sans recours, soit une chambre nationale de conciliation reconnue par le comité international olympique, d'accord, et voilà, ce sont les
organes. La
chambre administrative de la Cour suprême. Ce sont les quatre instances qui sont habilitées à se prononcer sur des décisions du Comité national olympique du Togo.
Merci. L'homme, je rappelle que dans son message de vœux, Fornia Singbe émettait le vœu que l'état de droit que nous voulons bâtir au Togo doit s'appuyer sur des institutions fortes. Donc la procédure et nos lois. Et pour Magloire et Michel, vous avez suivi l'homme pour nous résumer pour l'essentiel. Le CNO Togo a dû prendre des sanctions provisoires à titre conservatoire contre la Fédération Togolaise d'escrime pour malversation de visa. Hein? Le CNO Togo reproche à cette fédération d'avoir attribué des visas togolais à de faux athlètes qui sont perdus dans la nature. Pour Dr Jobo, le CNO Togo lui reproche d'avoir détourné les ressources nationales devra servir à une athlète. L'argent aurait été détourné. Et pour M. Bida, il lui est reproché d'avoir agressé verbalement notre athlète Dabla aux Jeux Olympiques tenus dernièrement à Tokyo. Eh bien, et comme l'a dit, avec quelques retards, le CNO Togo vient de mettre en place les instances juridictionnelles devant se prononcer sur la suite des sanctions. Et la ministre, en date du 30 décembre, vient de lever les sanctions contre les suspensionnés, d'où cette polémique dont nous essayons de nous en tenir au fait, mais la polémique enfle sur les réseaux, Magloire.
C'est un peu difficile hein, à voir tout le développement que l'homme a fait du sujet. J'avoue que je ne maîtrise pas au fond tout le débat, mais je crois savoir, comme l'homme l'a dit aussi, que c'est une question d'interprétation des textes. Et je me rappelle qu'on le disait la semaine dernière dans ce studio, que généralement les textes ne posent aucun problème, mais c'est les hommes qui interprètent les textes qui créent les problèmes que nous rencontrons ordinairement. Je ne sais pas, mais à comprendre, et l'homme, je ne sais pas si je me trompe, j'ai cru comprendre hein, que le CNO Togo a sanctionné un certain nombre d'acteurs en leur notifiant justement ou en notifiant que le dossier sera transmis à la commission spécialisée pour traitement du dossier, si je ne me trompe pas. Et que ce n'est qu'après que le CNO Togo a mis en place la commission, à moins que je me trompe. C'est-à-dire, la notification a été faite tacitement, mais la commission n'était pas là. Et ce n'est qu'après qu'on a mis en place la commission.
Oui.
Moi, personnellement, sur ce point d'éléments, je trouve qu'il y a un peu de soucis. Parce que vous vous rappelez qu'il y avait un dossier, une atrote, dont on a tant parlé dans ce studio, où les tests disaient clairement, par exemple, que lorsque un président est élu, il a 15 jours, par exemple, pour former son bureau. Et le président de l'UNATROT a passé tout le temps à ne pas disposer d'un bureau. Et cela a amené justement les membres à prendre des mesures qui ont amené finalement le président à mettre en place son bureau. Ça a été fait tardivement, mais ça a créé une situation un peu conflictuelle. Je crois que à bien analyser la situation, on se retrouverait presque un peu dans le même format où les tests disent que voilà, c'est une commission qui doit se charger de cette affaire, mais tacitement, la commission n'était pas là et que la décision a été prise avant qu'on ne se mette à créer la commission. Je ne sais pas si c'est ça qui a amené le ministre à décider de la nullité, n'est-ce pas, de l'acte posé par le CNO Togo, mais qu'à cela ne tienne, tu ne veux pas trop rentrer dedans, mais on aurait pu éviter tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en début d'émission, vous avez fait cas d'une citation que j'estime très belle. Les grands esprits, en réalité, ne discutent pas des hommes. Mais, en tant que journaliste...
Magloire, tu permets, je rappelle la phrase de Socrate qui dit que les grands esprits discutent des idées.
Voilà.
Les esprits moyens discutent des événements. Les petits esprits discutent des gens.
Voilà, les petits esprits discutent des gens. Je ne sais pas si on peut transposer ces citations dans ce dossier-ci, mais je me rends compte en tant que journaliste que ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de quiproquo entre, on va dire, la ministre des Sports et le président du CNO. Vous vous rappelez, à la suite, n'est-ce pas, des JO de Pékin, dont Elon faisait cas, de Tokyo, autant pour moi, il y a eu un souci où nous-mêmes, on avait écrit dans notre journal Le Flambeau pour dénoncer cela. Le président du CNO s'est permis, n'est-ce pas, de politiser carrément ce mouvement.
Non, ce n'était pas aux Jeux Olympiques. C'était aux Jeux de la solidarité islamique.
Ah, voilà. Autant pour moi.
En Turquie.
En Turquie. En habillant les acteurs de t-shirt d'un mouvement politique. Et ça, le ministre derrière a pris une décision ou a fait une sortie publique pour désavouer cela publiquement avec une autre. Et ce n'est que donc pour moi le prolongement peut-être de ce quiproquo là qui existe entre les deux hommes. C'est pour ça que je dis qu'on aurait pu régler ça autrement. Mais cette manière de faire, ce micmac-là, entre ces deux personnalités, ça me prouve personnellement qu'au-delà de tout, ça paraît être une affaire de personne et dans une institution, enfin, dans un État, dans une République, pour moi, ça pose problème.
Merci, Michel. C'est vrai que si on veut revisiter le duo Besikama et Della Demapaki, il y a plusieurs chapitres qu'on peut ouvrir, mais je vous prie de nous en tenir seulement au sujet hein, de ce jour, à savoir les sanctions provisoires prises par le CNOT et que l'homme nous a rappelé l'action de la ministre qui prend la décision de lever les sanctions en se fondant sur le fait que le CNO ne disposerait pas d'organes juridictionnels, alors que dans sa réponse au ministre, le CNO dit que en décembre, le dit organe vient d'être mis en place et le dossier lui est confié Bon, maintenant, Michel, en parlant de l'état de droit et du parallélisme de forme, au vu de ce que tu peux connaître du fonctionnement du mouvement olympique et de notre ministère des Sports, est-ce que le ministère des Sports est fondé à s'ingérer dans les affaires du CNOT et à lever des décisions prises par le CNOT?
Je pense qu'on ne va pas gaspiller nos salives pour rien, parce que pour moi, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Si les gens, c'est l'autre qui a touché un aspect très important, ma gloire. Si c'est une affaire des hommes, je pense qu'on ne doit pas utiliser les institutions pour régler ces problèmes-là. Mm-hmm. Parce que globalement, à y voir de près, les tests sont là. Les tests sont là. S'il faut les décortiquer un à un, les tests sont là et à partir des tests, on peut arriver à des conclusions qui pourront
satisfaire
tout le monde. Nous n'avons pas besoin, parce que l'exposé, regarde la jeunesse que l'homme venait de faire. Et moi je dis tout simplement une chose, c'est la question que tu venais de poser. Si le CNO, il y a un problème au niveau du CNO, est-ce que la ministre ou bien le ministre du sport est habilité à prendre une sanction?
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu
une décision
de lever des sanctions
que le CNO a prises? Est-ce que, selon les tests en vigueur au Togo, est-ce que c'est possible? Si on répond à cette question, il n'y a pas de problème. Le reste, s'ils veulent se voir dans un quartier, pour les deux, il n'y a pas de problème. Mais qu'on n'utilise pas l'autre, le ministère, et l'autre, le CNO. Non. On sait, si on veut faire un débat sérieux, on sait les prérogatives du CNO, on sait les prérogatives du ministère des Sports. Mm-hmm. Donc, ça ne se survole jamais. Donc, moi, le problème dans ce pays, c'est que, je me rappelle, entre-temps, il y avait vraiment de la bouillabaisse au niveau de l'AFTF. Vous vous rappelez? Mais il y avait le ministre du Sport à l'époque, il n'a rien fait. Si les ministres du Sport sont puissants comme ça, là, à l'époque, pourquoi le ministre du Sport, à l'époque, ne devait pas intervenir pour régler, tu te rappelles, de la grave crise au niveau de la FTF.
Crise interminable.
Interminable. Oui. Les ministères, les ministres qui sont cédés étaient là, mais rien. Est-ce que, quand je vois à peu près ce que représente le CNO, est-ce que c'est le ministère
Alors, du Sport? Justement, c'est peut-être parce que la dame ministre a voulu assainir la maison, arrêter ces crises qui n'en finissent pas. C'est pourquoi elle veut sévir. Tout à son honneur, l'essentiel, est-ce que tout cela est fondé juridiquement
et juridiquement, voilà. Il n'y a pas un magistrat ici, malheureusement. Donc, est-ce que juridiquement, et j'ai pu lire aussi, j'ai lu les deux, la décision du ministre et la réponse
du
CNOT, mais la réponse, il faut la parcourir. C'est balai, c'est dense. Et il faut vraiment des juristes pour décortiquer ça, pour dire que le CNO ne s'est pas pris comme ça pour sanctionner les gens. Encore que, quand Magloire disait que c'est vrai que quand on sanctionnait ces gens-là, il n'y avait pas encore l'organe
de recours.
Mais le CNO s'est rattrapé en créant cet organe et l'affaire est pendant devant.
Je vais répondre à ça justement. Oui,
mais
en fait, ce n'est pas que le comité. Première chose, je pense qu'on fait de l'amalgame, pas ici, hein, surtout souvent, en résumant le CNO ou le comité exécutif du CNO à la personne du président. Parce que beaucoup de fois, on a mis le président en avant en oubliant souvent le comité exécutif. Le comité exécutif du CNO est composé de plusieurs personnes. D'accord ? Et il y a le président qui coordonne quand même ce comité exécutif. Mais souvent, les gens font une fixation sur la personne du président sur la base de la bataille électorale qu'il y a eu en décembre 2020. Et ce qui est malheureux, justement, il faut le préciser. Maintenant, sur la base des commissions qui devraient être constituées, il faut rappeler que le comité était engagé dans un processus de révision des textes, de ces textes. Et ce processus, justement, devait recevoir l'aval du comité international olympique, puisque les tests du CNO sont souvent validés par le comité international olympique avant de passer à une assemblée générale statutaire. les commissions qui devraient être créées justement dans le cadre de cette affaire devraient faire l'objet d'une validation au niveau statutaire par le Comité international olympique avant que l'Assemblée générale ne se prononce officiellement, ce qui a été fait à Godrafa, l'hôtel Le Lac, en 2022, en mi-2022, pour conférer justement plein pouvoir au CNO et à ses institutions d'agir. Parce que les tests qui existaient étaient caduques, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté de pouvoir réviser les tests sur la base d'un certain nombre de choses qui n'étaient pas conformes à l'évolution du mouvement olympique. Et donc, comme l'Assemblée générale statutaire s'est prononcée en faveur de ces tests et que ces tests ont été validés au préalable par le Comité international olympique, les commissions devraient être constituées. Et il fallait faire un certain nombre de consultations, vous convenez avec moi, pour constituer ces textes. Et donc, ce qui a été fait, et en décembre, il y a certaines commissions qui ont été constituées et qui devraient maintenant connaître de ces différentes affaires pour que les intéressés puissent venir discuter avec les membres de cette commission et donner leur avis afin que cette affaire soit définitivement tranchée. Voilà.
Merci. Voilà le point que nous avons essayé de faire. Et pour conclure, il y a la décision prise par la ministre en date du 30 décembre 2022 qu'on peut consulter. Il y a également la réponse du CNO Togo à la ministre en date du 3 janvier 2023. On lira les deux documents et puis chacun se fera, disons, ses conclusions. Mais l'essentiel, c'est que chacun veille à s'assurer que la procédure est vraiment légale, voilà, est vraiment normale, mm-hmm, et que tout se fait selon l'état de droit que nous voulons bâtir au Togo.
Mais moi, je me rappelle que il y avait un certain nombre de... C'est vrai qu'il y avait au départ un nombre de personnalités qui étaient suspendues à titre provisoire, mm-hmm, et conservatoire.
Voilà. Le micro, oui.
Oui, mais par après, je pense que c'est comme l'homme le disait, il ne faut pas faire la fixation sur le président du CNO, mm-hmm, M. Afraki. Il ne faut pas faire, c'est le comité qui décide. Et je pense que ce même comité a pu lever un certain nombre de...
Une sanction.
L'Assemblée générale.
Voilà, l'Assemblée générale.
Réunie en session ordinaire.
Réunie en session ordinaire, mm-hmm, a pu lever la sanction de...
Monsieur Tagba,
par exemple.
Oui.
Voilà. Je ne sais pas. C'est la levée de cette sanction qui a suscité ce genre de réaction, ou bien qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça là. Sinon, en réalité, c'est le comité qui doit soumettre, le comité exécutif qui doit soumettre les décisions à l'Assemblée générale pour pouvoir...
Merci Michel de nous rappeler ce point-là, parce que la ministre dans sa décision écrit vu votre décision numéro 613 bas CNO Togo SG 2022 levant la sanction de monsieur Tagba Atafeitom suivant la résolution numéro 8 prise par l'Assemblée générale ordinaire du CNO Togo en sa session du vendredi 16 décembre 2022 qui atteste clairement qu'en attendant la mise en place effective des organes disciplinaires, l'Assemblée générale du CNO Togo assure les compétences qui leur reviennent. Enfin, on devrait dire qui leur reviennent.
Oui.
Qui leur reviennent. Vu les recours hiérarchiques formulés par les intéressés. Justement, et là, la ministre dit se baser sur le fait que l'Assemblée générale du CNO Togo a levé la sanction contre M. Tagba. Et que, conséquemment, elle estime que...
Non, c'est pas comme ça, ça doit se faire.
Non, moi je dois l'homme. Et que, conséquemment, les sanctions aussi contre les autres aussi devraient être levées dans le sens de faire revenir la sérénité au sein du mouvement olympique du Togo.
Si tel est le cas, vous convenez avec moi que le département ministériel devrait s'adresser directement au CNO Togo qui a organisé l'Assemblée générale réunis en session ordinaire. Parce que, selon les articles et les tests, comme je l'ai dit tout à l'heure, du CNO Togo, c'est l'Assemblée générale ordinaire qui peut se prononcer définitivement sur des sanctions prises contre un acteur du mouvement olympique et sportif. Maintenant, si Madame le ministre estime qu'on a levé la sanction d'un acteur sportif, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense qu'il faudrait justement saisir la même institution pour justement poser le débat sur les autres sanctions qu'il y a. Donc, dans ce cas, on pouvait dire, voilà. Mais décider ipso facto de pouvoir lever des sanctions d'autres acteurs, je crois quand même que là, sur la base des textes, uniquement sur la base des textes, si on interprète sur le plan juridique, je pense qu'il y a un problème. Parce que justement, comme je l'ai dit tantôt, en fait, le Comité national olympique n'est pas un département d'un ministère ou bien d'un organisme gouvernemental. Toutes les fédérations nationales sportives sont délégataires de pouvoir. Vous comprenez avec moi. Mais je l'ai dit aussi que les CNO de tous les pays bénéficient d'un statut particulier. Ils travaillent directement avec le Comité international olympique qui valide au préalable les textes et ils veillent à l'esprit de la charte et à la charte, au respect de la charte olympique.
Merci, c'est ce que nous pouvons nous dire entre nous ici, entre les journalistes. Mais le débat reste ouvert. Si la polémique continue, nous pourrions solliciter d'autres personnes ressources pour nous éclairer à bon escient. Magloire ?
Exactement, ça, vous voyez, avec le développement, et je me vois un peu conforté dans mon développement que j'avais fait au préalable. C'est-à-dire quoi ? En réalité, je me rends compte que les tests ne posaient aucun problème. Mm-hmm. Voyez-vous, c'est les hommes. Parce que moi, je n'ai pas lu la motivation de la décision de la ministre quand vous venez de nous rappeler tout à l'heure que la ministre disait, par exemple, que la décision qui a été levée contre le président Tagba,
oui.
En tout cas, dans la dynamique de cette décision-là, on pouvait aussi agir autrement. Mm-hmm. Et c'est ce que je dis, qu'on peut être dans un processus de réforme, comme l'homme l'a dit, mais ça n'empêche pas de mettre en veilleuse les commissions. Et voilà que ça nous rattrape aujourd'hui. Si c'était que les commissions, bien que le CNO Togo soit dans un processus de réforme, ça n'empêche pas qu'on mette les commissions en place, qu'elles travaillent normalement, en attendant de réactualiser tout ça pendant le moment où le CNO international ou le Comité olympique international viendra entériner les tests qu'on a adoptés à domicile. Voilà que ce n'est pas fait. Et qu'après, peut-être le ministère estime que si les commissions n'ont pas été mises en place et qu'à un moment donné, on sanctionne les gens, c'est peut-être un problème de personne et donc ce n'est pas légal. Vous voyez que ça rejoint un peu ce que je disais. On aurait pu éviter tout ça au niveau du CNO Togo en mettant en place ces commissions-là. Peu importe, parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir.
Oui.
Du moment où vous prenez le pouvoir et que vous l'exercez déjà, ça sous-entend qu'il va y avoir des dissidents, des problèmes que vous aurez à régler. Et voilà que les commissions n'étaient pas là. Mais n'empêche que vous avez pris une décision de lever des sanctions contre M. Tagba. Ça sous-entend que les autres commissions aussi pouvaient travailler autrement ou alors le CNO Togo peut agir aussi dans d'autres
Merci.
Cas.
Mais peut-être que, comme l'homme l'a dit, peut-être que si la ministre avait saisi le CNO d'organiser une assemblée générale spéciale pour connaître de la suite ces sanctions.
Non, vous savez, bon, en fait, je pense qu'il ne faut pas faire de l'amalgame encore une fois.
Ouais.
Les affaires ne sont pas les mêmes. J'ai décliné tout à l'heure le processus qui a conduit justement et les faits. Et que ces personnes qui sont visées dans le cadre de ces différentes affaires ont toujours la possibilité de pouvoir s'expliquer devant les commissions du CNO ou d'autres personnes ont déjà même saisi les tribunaux. Là, le problème ne se pose pas. Parce que tout concourt à la manifestation de la vérité. Je sais pas si on se comprend.
Mm-hmm, mm-hmm.
Et c'est leur droit le plus absolu de pouvoir se défendre. On ne peut pas le leur interdire. Mais les affaires ne sont pas les mêmes. Le cas dont ils parlent, par exemple, il s'agit de quel cas ? Il s'agit d'une affaire de mœurs qui pose un problème éthique dans le sport. Vous comprenez ? J'ai parlé tout à l'heure des différentes déclinaisons. J'ai parlé de plusieurs choses ici.
Ouais.
Mais ici, il s'agit d'une affaire éthique. D'accord ? Un acteur du sport qui estime avoir, ou bien qui dit avoir été piégé. D'accord ? Publiquement. Mais les acteurs sportifs sont piégés un peu partout. On l'a vu avec Benzema. Dans une affaire de... Vous savez l'affaire.
Hein, sextape.
Tout le monde est piégé aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et est-ce que les affaires se valent? Est-ce que quand vous prenez les affaires elles-mêmes, est-ce que c'est la même analyse qu'on fait de tout? Non. Ici, ça pose un problème éthique. D'accord? Et les autres, est-ce que ça tombe dans le pénal? Prenez les affaires sur le plan juridique. Analysez-les. Est-ce qu'une affaire éthique tombe dans le pénal? Est-ce qu'une affaire, par exemple, de détournement de fonds tombe dans le pénal? À vous d'analyser. Et quand vous mettez tout dans le même panier, non, c'est pas bon. On essaie de faire la différence entre les affaires et seule la commission juridique de discipline du CNO et seule, comme je l'ai dit, la chambre administrative de la Cour suprême, l'Assemblée générale ordinaire du CNO est qualifiée, ou la Chambre nationale de conciliation sont qualifiées pour se prononcer objectivement sur ces différents faits.
Merci. Merci, Soufré. Quand on suspende à ce niveau, quitte à rebondir dans les jours à venir, mais nous espérons quand même que nous avons fait le point et que tous les arguments ont été présentés. Et ainsi, les discussions pourront toujours continuer. Oui. Et pendant qu'il est 11h50, nous allons évoquer quand même quelques brèves, notamment la rencontre à laquelle la presse a été conviée hier à la HAC, quand la haute autorité de la communication a rappelé que le nouveau code de la presse et de la communication entre effectivement en vigueur à partir du 7 janvier prochain, après un moratoire de 3 ans, la HAC qui nous a rappelé les innovations qui entrent effectivement en vigueur à partir du 7 janvier. Ces innovations portent aussi, bien sûr, les organes, les sociétés de presse, radio, télévision, presse écrite, presse en ligne, doivent savoir à quoi s'en tenir, et aussi les acteurs qui animent la presse, les journalistes, les animateurs, les techniciens, tout le monde doit, en principe, c'est à quoi s'en tenir. Magloire, je présume que nous, ici au studio, nous avons la nouvelle version du code de la presse, que nous l'avons lu et que nous savons ce qui nous attend, nous, ici, dans ce studio, à partir du 7 janvier.
Évidemment, et on est dans ce processus, je crois, ça fait 3 ans déjà.
Oui.
Et que, en 2023, chacun des acteurs devrait savoir véritablement à quoi s'en tenir, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, c'est vrai que à s'en tenir, n'est-ce pas, à ce qui s'est dit hier à la HAC, on a compris que c'est véritablement un processus irréversible. Mm-hmm. On est de plein pied dedans, il n'y a plus moyen de reculer. Maintenant, ça aussi, c'est vrai, mais l'autre aspect, pour moi, fondamentalement, c'est que les réformes, c'est bien. Ça, on ne peut plus refaire ce débat. On est déjà dedans. Mais pour moi, le vrai débat aujourd'hui, c'est de chercher à savoir si tous les éléments sont à jour pour pouvoir démarrer ce projet en tant que tel.
C'est pour ça que heureusement que j'ai 3 ans a été observé.
Exactement, 3 ans, mais j'ai devant moi au moins 2 patrons qui me disent s'ils sont prêts vraiment à agir véritablement comme un patron de presse.
C'est-à-dire
que je présume que les nouveaux codes, quand on exige qu'avant d'avoir le titre de journaliste aujourd'hui, il faut prouver véritablement que vous avez, que ce soit au niveau des diplômes et tout. Maintenant, si le diplôme est là, le journaliste, il a le niveau requis, comme le veut les tests, est-ce que les patrons sont capables maintenant de l'entretenir au prorata de son diplôme? Ça aussi, c'est un débat.
Tu parles de peut-être la convention collective qui vient d'être adoptée, mais qui est également sous moratoire.
Exactement. Au niveau de l'État, on nous a parlé d'une aide pour le développement de la presse.
Ouais.
Est-ce que cette aide, elle est à jour? Je crois savoir, avant que la convention collective ne soit signée, il y a eu les patrons, le CONAP notamment, a demandé au niveau de l'État pour que on leur accorde une part.
Tous les patrons de presse, il ne faut pas faire de...
Ok, tous les patrons, voilà, le patronat CONAP, a demandé qu'on leur accorde une quote-part au niveau des marchés publicitaires, au niveau de l'État. Est-ce que c'est fait? Pour moi, c'est un ensemble de tout. C'est vrai, nous sommes déjà dans la réforme, mais pour moi, il ne sert à rien de vouloir y aller avec précipitation.
Est-ce qu'on peut encore parler de précipitation?
Non, pas
si
précipitation,
nous avons
mais
eu 3 ans,
c'est
3
bon.
Ans de moratoire, est-ce que les 3 ans ne suffisent pas pour que chacun à son niveau rentre dans les rangs?
De toute façon, c'est bien au niveau, les patrons sont là, ils vont nous
alors, vous avez été interpellé. Alors, est-ce que le directeur de Voilà les vainqueurs et le directeur de la Nouvelle Tribune sont déjà prêts pour le petit matin du 7 janvier 2023? Michel?
Non, la question que vous posez, je pense que, en principe, le nouveau code devait être mis, en tout cas opérationnel depuis 3 ans de cela. C'est nous-mêmes qui avons demandé
le moratoire.
Le moratoire, nous l'avons obtenu. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas être prêt à 100% Je comprends Magloire puisqu'il est un employé.
Ça.
Je pense qu'il défend,
son statut
d'employé.
Oui.
Mais au-delà de tout ça, là, je pense que les dispositions donc contenues dans le nouveau code de la presse, je pense que, en tout cas, certains patrons de presse ont fait l'effort, en tout cas, d'aller. De satisfaire donc à ces dispositions là pour être véritablement des entreprises de presse. En tout cas, moi, je l'ai fait. Donc, je me dis que ce que Magloire dit aussi n'est pas mauvais parce que l'État aussi doit nous accompagner parce que nous sommes des entreprises privées, c'est vrai, mais
nous faisons œuvre publique.
Donc l'État a l'obligation de nous accompagner dans ce que nous faisons. C'est pourquoi nous demandons que le fonds d'aide, ou bien le fonds de soutien
à la presse
là, qu'il soit mis rapidement, qu'il soit opérationnel, pour pouvoir nous permettre de pouvoir supporter certaines charges, notamment les charges liées à l'imprimerie et au salaire et tout ça là. Mais sinon, en tout cas, on n'a pas peur du 7 janvier parce que...
Connais, c'est que personnellement, je te rappelle que dans la convention collective, le SMIC était fixé à 35 000, mais depuis quelques jours, il vient de passer à 52 500.
Ouais. Bon, vous savez, on a des contraintes. En tant que patron de presse, on a des contraintes. Et moi, je vais le dire... on n'est jamais fin prêt pour appliquer une mesure. On peut avoir 10 ans, on n'est jamais fin prêt. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, on continue de plaider pour que nous, en tant que journaux, nous puissions bénéficier de la détaxe sur les intrants. Aujourd'hui, quand vous allez à l'imprimerie, les prix ne font que grimper. Vous comprenez? Et eux, nous continuons de plaider pour qu'au niveau du gouvernement, on puisse prendre une mesure pour exonérer les intrants des journaux de ces frais-là, des impôts et taxes.
Ouais.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on travaille exclusivement sur la base de la connexion Internet. Les journalistes togolais, quels qu'ils soient plutôt, ne bénéficient pas de prix modérés ou de prix promotionnels pour faire leur travail. On paye comme tout consommateur normal. Ce qui n'est pas... Je considère que pour les entreprises, oui, mais ce n'est pas normal. Parce qu'on doit bénéficier de taux forfaitaires au niveau de ces entreprises, que ce soit Togocom, tous les fournisseurs d'accès à Internet, pour nous permettre justement aussi de donner de l'information et de faire convenablement notre travail. Maintenant, sur le plan des salaires, le SMIC est passé à 52 500. Il y a des diplômés qui sont là, on continue d'aller à l'école. Voilà que le code de la presse dit que, bon, pour être journaliste, il faut avoir tel niveau, tel diplôme, etc. Nous sommes reconnaissants, nous sommes conscients du fait qu'il faut aujourd'hui aller vers davantage de professionnalisme. Il faut assainir le milieu et définir véritablement qui est journaliste et qui ne l'est pas. Nous sommes pleinement conscients de ce fait-là. Maintenant, les mesures d'accompagnement, comme je l'ai dit, des taxes sur les intrants, connexion Internet à taux forfaitaire, et au niveau même des employés, il faut aussi qu'ils nous accompagnent. Parce qu'un journaliste qui travaille sur une chaîne de radio, une chaîne de télé ou un organe ou dans un journal ne travaille pas que pour gagner un salaire. C'est une erreur que les gens font. Au-delà du salaire, ils construisent une carrière. Vous comprenez? Vous êtes journaliste dans tel organe aujourd'hui. À part le salaire que vous gagnez à la fin du mois, il y a votre nom qui reste. C'est pour ça que vous avez connu les Laurent Sadou. Vous avez connu les... qui est parti à la retraite récemment, Hassan Diop. Parce que c'est de grands noms. Et c'est ce que la chaîne vous donne aussi. Sans la chaîne, ce nom n'existera pas. Sans le journal, votre nom là n'existera pas.
Comme ça, c'est Gaou.
Comme ça, c'est Gaou.
L'homme de la presse.
Parce que, au-delà du salaire, la radio, la télé, le journal aussi vous donne un nom. Et ça, les employés, les journalistes ne le savent jamais. Sans le support là, vous ne serez jamais arrivé à ce niveau auquel vous êtes. Et ça, c'est l'investissement du patron. Ce n'est pas l'investissement de l'employé. L'employé travaille. Mais le patron souffre. Il investit. Mais c'est son support qui lui donne un nom à la fin.
Une autre forme de réponse du berger à la bergère. Et l'homme
a pu parler des employés.
Merci. Il nous reste deux minutes. Quand même, évoquer rapidement ces informations. C'est le changement qu'il écrit. Succession de Maître Yovi Agbebo à la tête du CAR. Le nouveau président sera connu en avril prochain. En croire le changement, le comité d'action pour le renouveau, le CAR, va tenir son 5e congrès statutaire en avril. je ne vois pas de date précise, et que c'est à l'occasion de ce congrès que Agbo Ibor, qui nous a quittés le 30 mai 2020, sera remplacé comme président. Et pour rappel, les plus jeunes, comme Magloire ne le sait peut-être pas, mais le comité d'action pour le renouveau a été créé le 30 avril 1991. Tu avais quel âge,
Magloire? En 1991, ouais. J'avais 5 ans.
Quelques mois. 5 ans. Bien, autre information. Nous parlions tantôt du SMIC et le changement nous en parle justement. Relèvement du SMIC au Togo, certes, c'est une bonne chose, mais comment est-ce que les entreprises qui avaient déjà beaucoup de mal pour payer 35 000 francs CFA à leurs agents, comment ces entreprises vont pouvoir payer 52 500 francs CFA comme le plus bas salaire le 31 janvier 2023? Je vais poser la question à Michel et à Aaron au cours de la troisième mi-temps. Et puis cette dernière information, au plan diplomatique, Fonia Singbe qui a fait une petite tournée hier. Dans la matinée, il était auprès de Assimi Goïta au Mali. Il a continué auprès de Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Les médias qui l'ont approché n'ont eu aucune parole. Mais d'après ce que j'ai écouté sur RFI, Fornia Singbe qui aurait dit qu'il aurait des choses importantes à dire dans les tout prochains jours. Mais on peut supposer, Elom, que Fornia Singbe n'est pas allé faire du tourisme à Bamako et à Abidjan hier. Ces déplacements doivent être liés à cette affaire de 49 militaires pour les Ivoiriens, mercenaires pour les Maliens. C'est sûrement cette affaire qui l'a mis en branle hier.
Bon, oui, effectivement, je crois quand même qu'on souhaite tous que grâce à ce déplacement du chef de l'État togolais, on puisse trouver enfin un consensus. Parce que le fait d'aller à Bamako, de passer par Abidjan avant d'arriver à Lomé, je crois quand même que c'est fort significatif. Et il va falloir qu'au niveau de Bamako, on puisse justement mettre de l'eau dans son Yamakouji, comme le président ivoirien a l'habitude de le dire, pour qu'il y ait un dégel.
Déjà, la CDAO qui met un peu d'eau dans son Tchoukoutou, bien dans son Sodami, la CDAO qui avait annoncé des sanctions contre le Mali le 1er janvier, la CDAO adoucit le ton aussi, peut-être pour laisser la chance à Fornia Singbe de réussir cette mission pour le bien du Mali, de la Côte d'Ivoire, mais de toute la sous-région ouest-africaine. Il est 12h03, nous marquons notre pause.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Eh bien, il est 12h05. Nous ouvrons le micro pour vous sur les deux numéros, le 22-21-33-74, le 91-36-63-75. Vous nous avez écoutés. Maintenant, nous sommes impatients d'avoir vos commentaires et vos questions sur les sujets discutés. Thomas, déjà un premier auditeur en ligne. Bonjour, l'ami.
Allô, bonjour, monsieur Sack.
Oui, c'est monsieur?
C'est Abdoul.
Abdoul.
Oui.
Eh bien, nous écoutons.
Oui, je vous salue tous.
Oui.
J'aimerais savoir, est-ce qu'un jour, un président aussi va prendre son avion, venir au Togo pour plaider sur le cas de Kwaki Nyasimbe et Jean-Paul Omolou, Dimaoré, tous ceux qui sont en prison comme détenus politiques.
Oui.
C'est ça ma question.
Merci. Abdoul. Oui. C'est juste pour vous remercier d'être entré en ligne, de poser le problème. Si un jour, un chef d'État venu d'ici ou d'ailleurs peut arriver au Togo et plaider la cause de ces personnes que Abdoul a mentionnées, Kwaki Nyasimbe, Omolou, Dimaoré et tous les autres. Merci. Les amis vont vous dire ce qu'ils en pensent. Un prochain auditeur.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est monsieur?
C'est Monsieur Kofi.
Monsieur Kofi.
Ah, okay. Zosime. Oui.
Avec la route depuis l'entreprise de l'Union jusqu'à chez vous là-bas. C'est bon, hein?
C'est une mauvaise voie là-bas. Okay. Il n'y a pas la voie chez nous.
Ok.
Je vous salue tous.
Merci.
S'il vous plaît, que comme le président est en train de promener sur la libération des 49 militaires là,
oui.
Si vous dites il y a des prisonniers politiques aussi, on le souhaite de les libérer aussi quoi.
Ah, prisonniers politiques ici au Togo. Vous rejoignez la préoccupation du premier Abdoul.
Merci
beaucoup, Kofi, depuis aussi, mais le troisième qui est déjà là, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
C'est Nyamavo,
oui.
Oui. Et bon, le sujet qui m'a intéressé, c'est les obsèques de
Benoît XVI.
De Benoît XVI,
oui.
Voir, disons, son homologue.
Son successeur.
Son successeur.
Oui.
qui n'est pas vit encore et qui célèbre ses obsèques.
Oui.
Et ça a suscité débat pour dire que il faut ses expériences aussi en Afrique. Il est vrai, du courage à vous, nul n'est prophète sur soi. Vous avez donné des exemples ailleurs, mais. Aussi, il y a des situations à vie.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, on est là, puis on ne veut pas partir. Après réflexion, j'ai vu que c'est comme on est choisi par les oracles. Donc, on dit c'est l'homme de la situation. Même s'il est en train de mourir, il se perd dans les réunions, c'est l'homme de la situation. Vous allez voir même au niveau des élections législatives dans les partis politiques, que c'est l'homme de la situation. Et la personne là, avec son hémicycle, après son hémicycle, qui va le voir très bizarre, ben même paysan ou bien Zemiyama n'est plus heureux que lui. Donc, or, quelqu'un d'autre peut faire l'affaire aussi. Mm-hmm. On dit c'est l'homme de la situation. Donc, que les oracles là ouvrent les yeux aussi pour voir les autres qui peuvent faire mieux.
Merci.
Bonne intervention.
Merci à vous, monsieur Nyamavo. Monsieur Nyamavo qui nous rejoint. Dans le débat, nous disions qu'il y a même des chefs d'État qui se perdent même en pleine réunion, se demandent où on est, où, qu'est-ce qu'on fait. Le suivant, bonjour.
Allô?
Oui.
Bonjour mon patron.
Bonjour Patrick.
Il fait jour.
Il fait jour et nous disons merci à Dieu.
Voilà. Je salue aussi les autres sur le plateau là-bas.
Et l'homme à gloire et Michel.
Bon, bonne année à eux.
Merci.
Voilà. Ma première question, c'est de savoir si le comité international peut aussi sanctionner en cas de non-entente entre les acteurs au niveau du tennis, là où vous avez évoqué la COM, la FIFA ou bien la CAF, c'est plutôt la CAF, la fait entre-temps quand il y avait un problème au niveau du football. Ça, c'est ma première.
Dans quelle affaire?
Quand la fédération togolaise n'arrivait pas à créer un comité ad hoc pour gérer la situation avant l'élection.
Oui.
Donc c'est pour voir si le comité international aussi peut aussi intervenir si les acteurs nationaux n'arrivent pas à s'attendre.
Mais est-ce qu'il y a crise interne au sein du CNO Togo aujourd'hui?
Non, comme les sanctions, entre-temps on avait dit que l'ancien président du tennis était sanctionné. Maintenant on dit que bon, les sanctions...
Non, l'ami Patrick, le CNO en son sein n'a pas de problème, il fonctionne... Et il sanctionne certains de ces acteurs à qui on reproche ceci et cela, mais il n'y a pas, à notre connaissance, de crise interne au sein du CNO pour que quelqu'un d'autre intervienne.
Bon, ok, ça va. D'accord.
Ensuite,
donc, pour finir là, c'est pour dire, c'est au niveau de la FEDEAO.
Oui.
Monsieur Sass, aujourd'hui c'est le 5, ou bien c'est le
5 janvier 2023.
Voilà, c'est pour dire que à l'heure où nous vivons présentement, il va falloir que les acteurs de la CEDEAO réfléchissent autrement. Parce que vous avez dit que M. Guetta ne libérait pas les 46 Ivoiriens là, il y aura des sanctions. Et pas plus qu'hier, nous tous nous l'avions suivi. On nous a dit que la CEDEAO, le président Mbalo, le président de
Nous avons déjà dit que la CEDEAO même est en train d'adoucir le ton, sûrement pour donner des chances à Faure Gnassingbé de faire réussir sa médiation.
En conclusion, c'est ça, parce que depuis le texte, nous disons qu'il n'a qu'à faire pas la paix et laisser notre président faire l'Afrique. Parce que c'est mieux pour toute l'Afrique.
Merci. Merci beaucoup, Patrick. Bonne heureuse année. Et Thomas, il y a déjà un autre auditeur. Ok. En attendant le prochain auditeur, Michel. Vous avez écouté l'ami Abdoul et Kofi qui sont... Ah, on m'annonce un auditeur en ligne. Bonjour.
Allô, bonjour. Oui,
bonjour.
Monsieur Garo.
Monsieur Garo, reconnaissable à son style.
Ouais. Bon, souvent on dit que les présidents se perdent et ils sont décédés
certains.
Le pays vit toujours. Bon, pour le Togo, le feu y a demain parti, mais le Togo vit.
Oui.
Mais seulement le Togo, on achète le maïs à 800, alors que quand il y a demain, tel là, c'est 300 francs.
Oh, bon. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que le maïs était à 300 francs quand il y a demain, tel là?
350, 400. Aujourd'hui, c'est 800.
Oui.
Bon, secondo, quelqu'un dit ce matin sur une radio qu'on doit changer le nom de RPT, on doit ramener le nom RPT. Parce que le pigeon blanc a tout bouffé le maïs. C'est pourquoi le maïs est cher. Qu'en pensez-vous? Merci.
Monsieur Garo, nous vous prions de réagir sur les propos que nous tenons au club de la presse. Merci. Le suivant, bonjour. Allô? Allô, l'ami en ligne? Ok. En attendant le prochain auditeur, Michel. Vous avez écouté Abdoul et Kofi, un auditeur qui entre en ligne. Bonjour.
Bonjour, cher Sos.
Oui.
Oui, c'est Ali.
Ali.
Oui.
Oui.
D'autres vous diront qu'il n'y a pas prisonnier politique au Togo. Mais je tiens à faire remarquer ceci. Est-ce que c'est la chèvre de la maman de ceux-là que Dimon aurait volé, on a pris? On l'a emprisonné à cause du vol de chèvre. C'est pas opinion, c'est pas un homme politique. Et celui qui dit ça est un ministre des droits de l'homme qui parle comme ça. C'est dangereux pour ce pays, les amis. Quand on est à un poste, on joue son rôle. On ne joue pas le rôle pour nuire aux populations et faire évoluer seulement un parti. Non! Comment un ministre va dire ça? Il y a pas.
L'ami Ali, je me permets de vous rappeler la pensée du jour quand Socrate nous enseignait que les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des gens.
Oui,
nous
je suis
vous prions d'élever le débat et de ne pas.
Un ministre qui parle comme ça, vous dites de lever le débat comment? C'est le ministre là qui doit plaider le cas des prisonniers.
Monsieur
mais il
Ali,
dit qu'il n'y a pas prisonnier politique.
Monsieur
c'est
Ali,
dangereux pour ce pays.
Monsieur Ali, vous êtes dans un débat. Ayez un peu d'humilité pour que nous continuions à apprendre les uns des autres. Merci. Le suivant. Allô, l'ami Ali, bonjour.
Oui, bonjour Stas.
Oui, c'est monsieur
Francis.
Francis.
Oh.
Ah. Allez-y, Francis.
D'abord, mes meilleurs voeux à vous tous. Hein.
Merci, c'est gentil.
Je voudrais parler du ministère des Sports.
Oui.
On dirait qu'ils n'ont pas de ministre, de juriste dans leur boîte. Parce que, avec cette affaire, je crois que les gens s'entremêlent dans ce ministère. Est-ce qu'il n'y a pas lieu même de rattacher ça à la présidente de la République pour qu'on soit libre? Parce qu'il y a d'autres dossiers. Deux dossiers qui vont arriver dans les jours à venir.
Lesquels, par exemple?
L'achat des équipements, le dossier d'équipementier. Comment nous fournir les équipements à 80 millions? Aujourd'hui, on va vers un certain Juma, ou Juma, ou je ne sais quoi, qui n'habille, on ne sait aucun pays dans le monde, et à qui on va donner 350 millions au lieu de 80.
Et c'est le ministère qui aurait attribué ces marchés?
Oui, oui. Jusqu'à présent, la fédération a refusé de signer ce partenariat-là.
Quelle fédération?
De football.
Eh bien,
et récemment, le comité olympique a signé un partenariat avec ce Puma en question. Donc, je dis, et il y a d'autres dossiers.
Eh bien, comme vous le dites, quand les dossiers-là vont éclater, nous jugerons sur pièce.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, l'ami Francis.
Et je salue mes petites nièces, vos enfants, vos deux filles.
Ah, c'est gentil. Merci. Francis, hein?
Ouais.
Ok, puis ce Francis me rappelle un autre Francis.
Ah oui, c'est l'homme.
Merci, merci mais Francis.
C'est Francine de l'une de vos filles.
Ah, Francis.
ma gloire est prévenue. Mais...
En tout cas.
L'auditeur suivant. Ok, merci. Oui, Michel. Bah, nous allons faire le point entre nous. Vous avez écouté les auditeurs. Il y a Abdoul et Kofi qui ont parlé
Oui, c'est
pense qu'ils ont...
Ils ont aussi... ils ont bien vu.
Ali aussi
a réitéré cela. Oui, il y a aussi des prisonniers chez nous. Ça, on ne peut pas...
Le prisonnier, il y a prisonnier.
Bon, c'est des prisonniers. Ici, il y a des prisonniers
d'opinion
qui ont été jugés, incarcérés. Oui. En tout cas, je ne veux pas les prisonniers politiques ou je ne sais pas. Les prisonniers tout court, si vous voulez, parce que parfois il y a des grâces aussi, de temps en temps il y a la grâce présidentielle pour certains prisonniers.
Du droit commun.
Du droit commun aussi. Mm-hmm. Donc on va dire les prisonniers. À partir du moment où il y a des prisonniers chez nous, notamment Kwaki Anyasingbe et Kouakuzé,
Jean-Paul Oumolou, Djimo
et les autres, mais ils plaident aussi pour que si les 47 militaires.
49.
Les 46.
Puisque ok, 43 moins 3.
Si la vie des 46 militaires là est tellement précieuse aux yeux de Faure Gnassingbé, ils veulent attirer son attention que chez lui aussi, il y a certains qui courpissent et qui ont droit aussi vraiment d'être élargis. Oui, eux aussi, on veut que les militaires retrouvent leur famille, que d'autres aussi, chez nous aussi. Mm-hmm. C'est normal, il faut qu'on lui dise ça aussi. Oui. Parce que c'est. À ce que je sache, Kwaki Anyasingbe a soumis une demande de grâce. Donc, c'est la même chose s'il plaide grâce pour les militaires ivoiriens. C'est pourquoi les autres aussi lui demandent de tourner son regard vers ses compatriotes.
Merci. Je rappelle que Kwaki Anyasingbe et ses camarades d'infortune ont été jugés condamnés.
Oui.
Les autres, Jean-Paul Oumolou et Djimo Oré, et s'il y en a encore d'autres. Bon. Qui continue à être détenu, inculpé, mais leur jugement tarde pour le moment. Et l'homme, les autres auditeurs, notamment, sont revenus un peu sur le CNO et le ministère des Sports. Il y a même quelqu'un qui a annoncé.
Comme nous sommes en janvier,
oui.
Le jeudi prochain, il faut qu'on retourne sur les incendies des marchés de Caraïbes, de Lomé. Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas si vous voyez clair.
Ça fera 10 ans,
cette affaire d'incendie. Il faut que...
Non, tu as dit jeudi prochain, non?
Oui.
Mais Elam...
Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Il faut que cette année, la culture de l'excellence, la recherche du bien et la foi soient justement notre boussole. Il faut que l'année 2023 puisse être une belle année pour chaque Togolais. Merci.
Merci, et Magloire.
Non, je vous savez, je vais un peu abonder dans le même sens que Michel, justement en rapport avec ce que certains auditeurs ont dit par rapport à la médiation du chef de l'État togolais. Vous voyez, moralement, tout Togolais aujourd'hui prie pour que M. Faure Gnassingbé puisse réussir sa mission. Et en retour, moralement, il se doit aussi également de faire montre de cette magnanimité-là envers des Togolais, parce que quand on prend l'affaire des 49 Ivoiriens, ils ont été jugés condamnés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État malien. Mmh. Et c'est le même chef d'accusation contre, par exemple, les messieurs Kwaki Anyasingbe accusés. Et donc, s'ils travaillent comme il le fait pour leur libération et ont pris pour qu'ils soient libérés, je crois que moralement, ça va de soi également qu'ils agissent, parce que s'ils vont être libérés, ça va être par grâce présidentielle.
Oui.
Et il va le faire par la grâce de Dieu pour que M. Assimi Goïta puisse prendre cet acte-là. Et en tant que médiateur, il se doit moralement également de prendre cette grâce présidentielle-là aussi au Togo pour libérer justement ceux-là sur lesquels pèsent ces mêmes chefs d'accusation. Moi, je ne veux pas parler de terminologie de prisonniers politiques ou non. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au Togo, il y a certains prisonniers sur lesquels pèsent justement les chefs d'accusation tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État, tout comme les 49 Ivoiriens. Mmh. Et donc, notre prière, c'est que M. Faure Gnassingbé puisse réussir sa mission et que, justement, au Togo aussi, qu'on jouisse un peu de cette relaxation-là, qui fera du bien à tout le monde.
Non, c'est un plaidoyer, une doléance pour dire que exactement. Une certaine charité bien ordonnée devrait commencer par soi-même.
Exactement.
Merci. Je refais le tour dans le sens contraire en recueillant vos cartons de fin d'émission, les tout premiers cartons de ce début d'année 2020.
Voilà, mon carton, il est rouge, mais vous allez m'aider à identifier un peu la structure qui va l'avoir.
Okay.
Au Togo, quelle est la structure qui gère les stades?
Les stades de sport,
voilà,
c'est le ministère des Sports.
C'est le ministère.
Oui.
Alors,
pour les stades officiels. Hein.
Oui, oui. Ok, carton rouge alors au ministère des Sports. Ça n'a rien à voir avec le débat qu'on a fait au préalable. J'avais préparé mon carton depuis, sauf que je ne savais pas que c'était le ministère des Sports. Pourquoi ce carton rouge? Depuis que le stade municipal de Lomé est créé ou construit en 1967 ou 68, je crois.
Bien avant ta naissance, en tout cas.
Bien avant ma naissance. Le marquoir du stade municipal de Lomé, c'est en ardoise. Et vous allez voir, on a installé de l'échafaudage là-bas. Il y a deux individus qui sont perchés là-haut. Même pour les matchs officiels, c'est deux individus qui changent les marquoirs. Si on marque, on change l'ardoise, 1-0, 2-0. Alors qu'aujourd'hui, le football togolais s'inscrit dans une certaine réforme où le championnat national est diffusé non seulement sur New World, le bouquet en vogue actuellement en Afrique. Le championnat national est diffusé sur la plateforme FIFA+, qui est la plus grande plateforme sportive au monde, qui diffuse tous les championnats au monde. Et les gens voient qu'au Togo, on est encore non seulement à l'état de l'analogie, mais à l'état précambrien, où c'est des individus qui sont là pour changer les marques. S'ils tombaient. Ah oui, ils peuvent tomber à tout moment. On va nous accuser, nous, journalistes, qu'on non assistant à personne en danger.
Non, c'est pas nous qui les avons placés là-bas.
On n'a pas dedans. On a dénoncé en décernant, non
oui.
Carton rouge au ministère, ils n'ont pas changé ça pour l'image du Togo. Parce que nos championnats
sont diffusés. Parce que le marquoir au stade municipal de Lomé ne reflète pas la modernité. Mais comme c'est un carton spécial, nous allons prier le tchotcho de t'accompagner. Tu vas remettre le carton en main propre à qui de droit.
En tout cas, c'est...
Merci, Elom.
Magloire m'a tellement fait que je ne sais pas si... Moi, je n'ai pas de carton. Bonne journée à toutes et à tous.
Merci. Mon Michel.
Carton, il est vert. Il est destiné à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du Club de la Presse.
Merci. Nous avons salué en début d'émission les frères Napo. Ils ont réagi. Ils me chargent de vous saluer et de vous dire qu'ils sont là pour vous, pour vos véhicules. Mais avec la précision que ils font la toilette des véhicules.
Et nos motos.
Des hommes qui sont mariés.
Et nos motos.
Ok, des véhicules, c'est-à-dire voitures et motos.
D'accord.
Mais dont les propriétaires sont des journalistes mariés.
D'accord.
Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain vendredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra certainement.
Canal FM.